Bonjour à toutes et à tous, j'enlève. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Avant de passer à la prédication, j'aimerais faire une petite compte rendu de ce que nous on croit. Dans cette église, pas seulement dans cette église, mais dans toutes les églises évangéliques. Lorsque on veut devenir membre, il faut qu'on passe par le baptême par immersion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a dans beaucoup d'églises, on te baptise lorsque tu étais bébé. J'y suis passé. J'ai fait tous les cheminements. Hein. J'étais catholique. J'étais baptisé quand j'étais bébé. J'avais des parents. J'ai fait la première communion. J'étais confirmé. Et tout le reste. Bon, ma vie a été un peu ce que je devais devenir prêtre. Tout ça pour vous dire que on ne naît pas chrétien. Ce n'est pas une décision de nos parents. C'est une décision que chacun de nous il doit prendre lorsqu'il comprend dans quel état il se trouve, l'état du pécheur, qu'il n'y a qu'un seul et unique sauveur, Jésus-Christ, qu'il est mort pour prendre sur lui notre malédiction, parce que nous sommes des pécheurs, et c'est lui qui l'a pris à notre place. Et que nous devons nous tourner vers Jésus, vers cette croix, pour pouvoir être lavés et purifiés. Une fois que nous avons fait ça, nous sommes devenus chrétiens. Mais il y a une autre étape à faire, c'est se faire baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est le témoignage envers tous ceux qui nous entourent, que nous appartenons au Seigneur. Nous voulons suivre le même cheminement que le Seigneur. Nous, on croit en Jésus-Christ qui a pris sur lui nos péchés, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est mort à notre place, qu'il a été enseveli pendant 3 jours et le troisième jour, il est ressuscité et il est monté au ciel, il s'est assis. Le cheminement d'un chrétien, de celui qui s'est tourné vers Jésus, c'est exactement la même chose. Il s'est fait baptiser par immersion, c'est-à-dire qu'il meurt à lui-même, il meurt à la chair, il meurt au désir et il ressuscite dans une nouvelle vie à l'honneur de Dieu le Père, de Jésus-Christ, et il vit une vie chrétienne en travaillant pour le Seigneur. C'est ça le cheminement qu'on lit dans la Bible. Dans la Bible, c'est marqué, il y a les apôtres qui prêchaient, et c'est écrit, ils crurent et ils se firent baptiser. C'est le cheminement. Dans différentes églises, ils font l'inverse. Moi, j'ai fait l'inverse. Et beaucoup de vous, si vous avez fréquenté l'église catholique, ou même des églises protestantes, luthériennes, qui font ça, ils baptisent les enfants, et ensuite, il faut faire la première communion. Mais un enfant, il n'a pas décidé lui-même qu'il est pécheur. Comment voulez-vous qu'un enfant, il reconnaisse qu'il est pécheur? C'est les parrains ou la marraine qui témoigne pour lui. Je ne sais pas si vous avez assisté à un baptême. Le prêtre, il est là avec un peu d'eau et il dit à l'enfant, « Est-ce que tu renonces au péché ?» Et les parrains, la marraine dit, « Oui !» Est-ce que tu acceptes Jésus? Oui, c'est les parents qui répondent. Non, dans la Bible, c'est marqué que Dieu, il veut un rendez-vous particulier. C'est nous-mêmes qui devons nous tourner vers lui et dire, oui, je crois en Jésus. Je sais que je suis pécheur. Je me tourne vers toi pour que tu puisses me pardonner, me laver, me purifier. C'est une décision que moi, je prends. Je t'ai baptisé. J'ai fait ma confirmation, mais un jour, quelqu'un m'a parlé du Seigneur, quelqu'un m'a parlé de la Bible, et alors, en croyant ce que Dieu me dit dans la Bible, je me suis fait baptiser par immersion, parce que je voulais suivre le cheminement de Jésus-Christ. Et c'est ce cheminement-là qu'il faut suivre. quelqu'un qui veut devenir membre, pas spécialement ici, hein, mais n'importe dans laquelle église catholique, église évangélique, il doit suivre ce cheminement. Il faut qu'il croie en Jésus-Christ, qu'il se reconnaisse coupable, qu'il soit lavé et purifié, et ensuite qu'il se fasse baptiser. En ayant Jésus et en étant baptisé, alors on peut devenir membre. On peut même prendre la Sainte Cène. Parce que c'est l'obéissance au Seigneur. Croyez et faites-vous baptiser. Si quelqu'un il dit « Je crois en Jésus » mais ne s'est fait baptiser comme lui l'a fait, il est désobéissant. Parce que Jésus, il a dit ça. Voilà, je voulais faire cette rectification. Vous pouvez vous renseigner dans toutes les églises évangéliques qui croient dans l'Évangile et dans la parole de Dieu. C'est ça le cheminement. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour que vous sachiez si des fois il y avait quelqu'un qui devait donner un témoignage pour devenir membre, mais il n'avait pas suivi ces cheminements. Donc, en tant qu'église biblique, baptiste, on ne peut pas l'accepter en tant que membre. Voilà ce que je voulais vous dire. On va passer à la parole de Dieu, et je vais vous inviter à ouvrir le livre de Jérémie, au chapitre 29, et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est Jérémie qui écrit. Voilà ce qu'il dit. « Voici les contenus de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les peuples que Nabucodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone après que les rois Jéconias, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils d'Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, le roi, roi de Juda, auprès de Nabucodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. À tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos divins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations, et tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà ici une lettre adressée à des réfugiés. C'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire des exilés. On en a parlé ce matin lorsque je vous ai un peu montré l'histoire de ce peuple, n'est-ce pas? Que à cause de leur, rébellion contre le Seigneur il les a envoyés en captivité. Nabucodonosor, il est venu et il les a amenés en captivité. Pas tous, hein? Pas tous, parce qu'à un certain moment, Nabucodonosor, il a délégué les rois Jéconias qu'ils restent là et qu'ils dirigent ceux qui étaient restés, parce qu'il ne les a pas tous ramenés. Donc, il a ramené une partie. Et ici, Jérémie, qui se trouve à Jérusalem, il leur écrit une lettre. Hein? Imaginez-vous, cette lettre, il a été écrite 26 siècles en arrière. Et Jérémie, il leur écrit pour qu'ils étaient à Babylone. Pour faire quoi? Pour leur montrer l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'il dit, cette lettre? La première chose qu'il nous dit, c'est que le Seigneur, il a des projets pour son peuple. Le Seigneur a des projets pour son peuple. Et il nous décrit aussi les projets de Dieu. Pas seulement Dieu, il dit, j'ai des projets, mais il les expose. Et c'est ça aujourd'hui que c'est dans la difficulté. Même politiquement, ils vous disent, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais ensuite, on ne voit rien. Mais Dieu, il dit, j'ai des projets, et voilà quels sont mes projets. Et comment peut-on essayer d'écouter ces projets lorsqu'on se trouve comme le peuple d'Israël dans un pays étranger? C'est très difficile de pouvoir supporter toutes ces souffrances. Mais Dieu, il leur dit, je connais mes projets. Et si Dieu, il connaît ses projets, c'est que nous devons lui faire confiance. Voilà la chose la plus importante. Dieu connaît les projets qu'il forme et qu'il veut élaborer. Il prépare des choses pour Israël, pas seulement pour Israël, mais pour chacun de nous. Ne croyons pas que Dieu, il agit comme ça. Tiens, je vais faire ça. Non, tout est déjà établi. Parce que les projets de Dieu, ils ont été faits depuis des années, des années, des années. Et c'est ça que le Seigneur, il nous dit. Et le Seigneur, quels sont les projets de Dieu? C'est des bons projets. C'est des bons projets pour son peuple. Qui pourtant, il se trouve en exil. Loin de chez lui. Donc, mes chers frères et sœurs, comme pour Israël, sachons que Dieu, il a des projets pour chacun de nous. Et que le Seigneur, ces projets-là, il va les mettre en exécution. Qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous? Que nous restions à son obéissance. Que nous soyons obéissants à ce qu'il nous dit. Et c'est ça que le Seigneur, il nous dit. Pour notre communauté, ces projets de Dieu, ils vont être bons pour notre ville, pour notre communauté, et même pour notre église d'Argenteuil. Et on peut se demander, encore une fois, deux choses. Est-ce que nous le croyons que Dieu a des projets pour nous? Est-ce que nous le croyons? Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que nous croyons que Dieu il va accomplir toutes ces choses-là? Ça, c'est la chose la plus importante. Car lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on l'étudie, on la médite, on doit croire à ce que Dieu dit. Et la deuxième chose, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont ces projets que Dieu a préparé pour son peuple? Quels sont les projets que Dieu a préparés pour nous qui sommes son peuple? On l'a vu ce matin dans notre étude. que nous sommes l'Israël de Dieu, pas l'Israël dans la chair, qu'il a été circoncis dans la chair, mais nous, nous sommes l'Israël de Dieu qui a été circoncis dans le cœur. Parce que c'est ça les vrais juifs, c'est ça les vrais peuples de Dieu, ceux qui ont été circoncis du cœur, c'est-à-dire laisser de côté les choses du monde, laisser de côté la chair, laisser de côté les plaisirs et se donner entièrement à Dieu. Voilà, quels sont les projets que Dieu a pour ses enfants? Quels sont les projets pour le peuple d'Israël qu'il s'est trouvé en captivité? Donc il était dans la malheur. Et Dieu, il leur a dit plus loin, on l'a lu, hein, il leur a montré le projet, il a dit, vous serez là, vous allez rester là pendant 70 ans. Donc, dans la souffrance, mais j'ai des projets pour vous. Mais restez là, 70 ans, mais j'ai des projets pour vous. Alors, on peut se demander, les projets de Dieu, quels sont les projets de Dieu? Au verset 11, nous l'avons lu, je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets de Dieu. Voilà les projets de Dieu. Et vous savez bien, dans ce monde, comme il nous est dit dans Proverbe 19, 21, à propos des projets, il nous l'est dit, l'homme élabore de nombreux projets, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Hein, ça nous arrive de faire des projets. Ah, je vais être ça, je vais faire comme ça, je vais comme ça. C'est des projets que nous faisons. Au lieu de dire comme Jacques, si Dieu le veut, oh Dieu, montre-moi ce que tu as en réserve pour moi. Et ici, le Seigneur, il nous le dit, je vais vous donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai, si on regarde le monde d'aujourd'hui, quel avenir on doit attendre? Hein? Vous connaissez la situation de notre société, n'est-ce pas? Quel avenir? Avec ce virus qui tourne, ils disent qu'on va l'avoir pour des années presque, qu'il va être constamment là. Et en plus, quelle espérance! Mais Dieu, il nous dit, j'ai de l'avenir pour toi, et j'ai de l'espérance pour toi. C'est ça que Dieu nous dit. Mais encore une fois, le croyons-nous? Le croyons-nous? Si nous élaborons des projets sans y mettre le Seigneur dedans, ces projets, ils ne vont pas aboutir. Sachons-le. Sachons-le. Il faut mettre le Seigneur d'abord. Le prier, lui dire, Seigneur, montre-moi ce que tu as en réserve pour moi. Je pense faire ça, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Montre-moi le chemin. Je ne vais pas marcher sans toi. C'est comme ça. C'est ça l'avenir que Dieu nous donne. C'est un avenir de paix, il nous est dit, de paix, de bonheur et d'espérance. Et c'est vrai que si on a le Seigneur en nous, nous devons vivre dans la paix, dans le bonheur, dans l'espérance. Dans le bonheur. Et pas croire à ceux qui vous disent, si tu es chrétien, tu vas avoir une belle vie, heureuse. Non, le Seigneur, il n'a pas proposé une vie sans souffrance. Au contraire, il a dit, mais vous serez persécutés comme moi j'étais persécuté. Vous serez haïs comme moi j'étais haï. Mais il y a une espérance. Dieu, il a une espérance pour vous. Et à la fin de la Bible, Apocalypse 22, il nous le dit, le Seigneur, je veux revenir bientôt. C'est ça l'espérance que nous serons auprès du Seigneur bientôt. Et à cela, l'Église, il a répondu, Maranatha, Seigneur, oui, viens bientôt. C'est ça notre espérance. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission l'autre jour à la 2, là, hein, et Salamé et l'autre, ils ont interviewé un peu ceux qui étaient là, hein. Il y avait le premier ministre, n'est-ce pas? Et alors, à un certain moment, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit, je suis chrétienne et il va y avoir la fin du monde. C'est la fin du monde, ce virus. On ne peut pas dire ça. Nous, en tant que chrétiens, nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons une personne, Jésus-Christ. Et ce n'est pas la fin du monde, Lorsque Jésus il va venir, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres choses que la Bible nous dit. Et ces choses-là, ils vont se réaliser. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un état. Lorsque Jésus il va revenir, il va prendre son Église. Et ceux qui resteront ici, ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, ceux qui n'ont pas cru la vérité, alors tous ces gens-là, ils vont subir la colère de Dieu. C'est ça que nous attendons. Je suis chrétienne, elle a dit, c'est la fin du monde. Non, ma sœur, si tu es chrétienne, la Bible ne dit pas ça. La fin du monde, il viendra lorsque le royaume il sera remis entre les mains de Dieu le Père. Et alors, toutes les choses qui sont ici-bas, ils vont être démolies, ils vont périr. Et il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et c'est là que tous les enfants de Dieu, ils vivront heureux. Voilà ce que la Bible nous dit. Ce que Dieu il nous réserve, c'est de paix, c'est le bonheur. Vous savez, lorsqu'il a créé Adam et Ève et il les a placés dans les jardins, la pensée de Dieu, c'est qu'ils vivent heureux. Ils avaient tout, la communion avec Dieu. Pour les mettre à l'épreuve, Dieu il leur a dit seulement, voilà, tu as tout ici pour que tu sois heureux là. Mais tu dois faire une seule chose, de ne pas manger de cet arbre-là. C'est pas que l'arbre il était mauvais, attention, l'arbre il était bon. Mais c'était l'ordre de Dieu. Il devait obéir. Et c'est à cause de cette désobéissance, à cause de ce péché, que la vie de l'humanité elle est devenue pénible. Dieu a dit à la femme, tu vas partorir avec douleur. À l'homme, il a dit, tu vas travailler, tu vas gagner ta vie à la sueur de ton front. Voilà, et tout ça à cause du péché. Mais l'approche de Dieu, la pensée de Dieu pour son peuple, c'est des pensées de bonheur, de paix, d'avenir. Quel est notre avenir en tant que chrétien? Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils du roi, nous sommes des messagers du roi, nous sommes des souverains, nous sommes des sacrificateurs, nous aurons des couronnes, nous aurons long régné avec Jésus-Christ. C'est ça l'avenir que le Seigneur il nous réserve. Oui, il a continué à dire, Jérémie, oui, j'ai de l'espérance pour toi. Mais toi, est-ce que tu crois à ce que je t'ai dit? C'est ça. C'est ça que Jérémie, il leur dit. Quelle est cette espérance? L'espérance que nous avons, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas une vague croyance en quelque chose, mais cette espérance, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, c'est lui qui est mort à notre place. C'est ça notre espérance. Et nous savons qu'un jour, il va revenir ici-bas. Et à maintes reprises dans le Nouveau Testament, Paul, il a parlé de cette espérance de Dieu. Je ne vais pas vous lire les versets, mais je vais le dire, ce qu'il dit de cette espérance. Dans Romains 5, 5, il dit, c'est une espérance qui ne trompe pas. Il ne trompe pas. Dans Galates 5, 5, il nous dit, c'est une espérance de justice. Dans Colossiens 1, 27, il dit, c'est une espérance de la gloire. Et dans 1 Timothée 2, 19, il dit, cette espérance est synonyme de joie. La joie. La joie du Seigneur y remplit notre cœur. Réjouissez-vous tout le temps, dans les bons et dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur, hein? Et dans 1 Corinthiens 13, 13, il nous parle l'espérance dans la foi et dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. La foi en Jésus-Christ. Et dans Tite 1, il nous dit, c'est l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut nous donner. Voilà ce que Dieu a en réserve pour son peuple. Vous savez, pendant des siècles, vous savez, la pointe sud de l'Afrique, hein, s'appelait le cap des tempêtes, parce qu'il paraît que là, il y a des tempêtes dans l'Afrique du Sud, je crois que c'est tout en bas, hein. Il paraît qu'il y a des tempêtes. Mais un jour, il y a eu un navigateur portugais, hein, comment il s'appelait, Vasco de Gama, il a réussi à franchir ce cap-là, et depuis qu'il a fait, il a été donné un autre nom. Pas le cap des tempêtes, mais cap de la bonne espérance. Il y avait des tempêtes, mais lui, il a traversé, et depuis ces jours, il ne s'appelle pas le cap des tempêtes, mais le cap de la bonne espérance. Et voilà pourquoi, par Jésus-Christ, nous avons cette espérance, parce que Jésus, il a vaincu la mort. Et la mort, il n'est plus pour nous un cap de tempête, mais c'est le cap de la bonne espérance. Parce que Dieu, il nous réserve quelque chose de fantastique pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Voilà, c'est cela l'espérance chrétienne, celle qui commence là où les espoirs humains, ils s'arrêtent. Quel espoir il a ? Le monde aujourd'hui, il n'a pas d'espoir. Mangeons et buvons. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais nous, nous savons ce qui va nous arriver. Parce que nous avons un avenir et nous avons une espérance. Et c'est quoi cette espérance? Comme on a chanté tout à l'heure, cette espérance, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, son amour inconditionnel pour chacun de nous. Lorsque nous tombons dans les péchés, Dieu il n'arrête pas de nous aimer. Mais au contraire, l'amour de Dieu, il ne s'arrête pas. On suffit qu'une seule chose, il faut se tourner vers lui. Et Dieu, il nous pardonne, parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel pour chacun de nous. Il ne nous aime pas seulement lorsqu'on fait des prières, mais il nous aime aussi lorsque nous commettons des péchés. Bien sûr, nous n'avons pas la communion, mais il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle et nous dit « Reviens, reviens ». Voilà, on a vu les projets de Dieu. On a vu quels sont les projets de Dieu. Comment mettre en œuvre les projets de Dieu ? Dieu veut appliquer ses projets. Comme je vous ai dit, Dieu ne promet pas seulement, mais il désire les appliquer. Des projets de paix, de bonheur, d'espérance. Et il nous dit, comme il le disait par les prophètes Jérémie aux exilés de Babylone, il dit, recherchez la paix de la ville et intercédez en sa faveur. Et avant cela, dans versets 5 et 6, il avait dit ça, la même chose, mais il a dit en d'autres termes, il a dit, installez-vous. Il devait rester 70 ans. Il devait rester là 70 ans. Hein? Et pour nous, ça veut dire quoi pour nous cela aujourd'hui? Nous devons vivre dans la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous nous trouvons. Et nous devons rechercher la paix et le bien-être de l'endroit où Dieu nous a placés. Il nous dit la même chose. Et priez pour cela. Deux choses pour mettre les projets en route, les projets de Dieu pour nous. Premièrement, rechercher la paix de notre ville. C'est ça que, des fois, on doit prier pour nos gouvernements, pour nos maires, pour ceux qui nous gouvernent, et en leur disant, Seigneur, conduis-les, comme ça nous pouvons mener une vie tranquille. Nous devons rechercher la paix. Nous devons tout faire que l'endroit où nous sommes, il règne la paix. Et encore plus, prier pour que notre ville elle puisse prendre de l'expansion, pour que dans notre ville, il y ait de plus en plus de gens qui témoignent, des gens qui amènent les gens au Seigneur. Parce que nous sommes là pour un moment, hein. Nous sommes vivants pour un certain temps, nous ne sommes pas définitivement en vie, hein. Un jour, nous devons mourir. Et le Seigneur, il a dit, recherchez la paix, faites-la connaître là où vous êtes, installez-vous et faites connaître cette parole. Les prophètes, ils recherchent, ils disent de rechercher les biens de la ville. Vous savez, la paix, hein, en hébreu, c'est le shalom, la paix. Hein, avec Roland, on était là mercredi, et a pris la voiture. Quand il est sorti, il m'a dit « Shalom, mon frère voilà. ». Non, mais c'est ça, là. Nous devons chercher la paix et nous conduire. Cela veut dire de tout faire pour que la paix règne dans notre vie, dans notre ville, dans notre village, dans notre quartier. Faire tout ce qu'il faut et encore une fois, intercéder pour notre ville. Quelle est la dernière fois que nous avons intercédé pour notre ville, pour nos gouverneurs, pour nos maires? C'est un ordre du Seigneur. Et Jérémie, il dit ensuite, « Parce que votre paix, » au verset 7b, « Parce que votre paix, votre bonheur, shalom, dépend de la sienne. » C'est vrai que si l'endroit où nous habitons, elle est en paix. Dans la paix, nous vivrons aussi là-dedans. Voilà pourquoi nous devons faire toutes ces choses-là. Cela nous affecte, nous devons participer à cela. Et en tant que chrétiens, et comment instaurer cette paix dans l'endroit où nous sommes? En proclamant le prince de la paix. Qui c'est le prince de la paix? C'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut amener la paix. Voilà pourquoi c'est très important cela. Et comme toujours dans la parole de Dieu, quand il y a des ordres que Dieu il donne, comme ici, hein, rechercher la paix, prier, ça c'est des ordres, mais il y a aussi des promesses. Dieu il ne nous laisse pas sans promesses. Hein? Il y a des ordres, des commandements, des exigences pour nous. Il y a aussi des promesses qui nous permettent de réaliser. Comme il nous est dit, ce que je vous commande ici, dit le Seigneur, ce n'est plus, c'est pas quelque chose d'utopique ou irréalisable. Si nous avons le Seigneur, nous pouvons réaliser cela. Faisons confiance au Seigneur. Car lui, il nous donnera la force de pouvoir exécuter ces choses-là. Et c'est ça la promesse que le Seigneur... Et quelle est la promesse qu'il nous fait? Au verset 20, il nous est dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » C'est ce qu'il a dit le Seigneur aux apôtres, n'est-ce pas? « Je suis avec vous. » Et il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Si en tant que chrétien nous faisons tout pour que notre ville, notre village, il soit de la paix, qu'il puisse recevoir sinon Jésus, alors Jésus nous dit, j'ai tous les pouvoirs de pouvoir le faire. Le Seigneur a promis que ceux qui font appel à lui, hein, il nous a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Et ça c'est la promesse du Seigneur. Moi j'ai cherché le Seigneur. Depuis longtemps, je l'ai cherché. Je suis passé par toutes les religions, par toutes les croyances. Et je ne l'ai pas trouvé. Mais un jour, un pasteur américain, il est venu. Et il m'a parlé de ce que la Bible dit. Pas la Bible qu'on avait auparavant, chez les catholiques. Je parle des catholiques parce que j'ai vécu dedans. Et à la messe, on lisait que les évangiles. Je parle à mon époque, hein. Hein, j'ai 71 ans, donc imaginez-vous de quelle date je vous parle. Hein. Mais un jour, quelqu'un, il est venu, il m'a présenté la Bible, et il m'a montré un seul verset, Romains 3, 26. Voilà, car les salaires du péché. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends, toi, de Dieu? Ben, j'ai dit, écoute, je ne suis pas mauvais, hein. Je ne vole pas, je ne tue pas. Donc, bon, Dieu est bon, il va avoir pitié de moi. Mais le verset, il nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il m'a dit, regarde ce que Dieu te donne. Est-ce que tu es pécheur? Ben oui, je suis pécheur. Je n'ai pas fait de gros péchés dans la croyance catholique. Il y a des petits péchés, des gros péchés, des péchés énormes, des péchés impardonnables. Et il dit, non, non, si tu as péché, c'est la mort que tu attends. Pas la mort physique, parce que là, tout le monde y passe. Hein. Ça, c'est le rendez-vous de tous les humains. mais c'est la mort spirituelle, l'éloignement de Dieu. C'est ça le vrai évangile. C'est ça le vrai évangile. Mais la suite du verset, c'est que Dieu il fait grâce à ceux qui se tournent vers lui. Et c'est comme ça que Dieu, c'est pas que je l'ai cherché, mais Dieu, il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Comment ? À travers sa parole. À travers sa parole. Voilà pourquoi je lui fais confiance en toutes choses. Et je sais que cette lettre que Jérémie a écrite, c'est une lettre pour moi, c'est une lettre pour vous. En vous disant que Dieu, il a des projets pour chacun de nous. Quels sont ces projets ? Des projets de paix, des projets d'avenir, des projets d'espérance. Et comment est-ce qu'on va mettre en place ces projets de Dieu ? En recherchant le Seigneur, en se tournant vers lui, et pas autrement. Cherchez-moi et vous me trouverez. Et Dieu, il ne nous donne pas, comme j'ai dit, seulement des commandements, des ordres, mais il nous fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi nous pouvons faire confiance à ces dieux. Le Seigneur, sachons-le, que le Seigneur est là. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous écrit dans l'Ancien Testament, une mère, il peut abandonner son enfant, mais moi, jamais je le ferai. Si nous sommes enfants de Dieu, jamais Dieu ne nous abandonnera. Combien de femmes, des mères, qu'ils abandonnent leur... Voilà pourquoi ce verset dans la Bible, c'est ça. Une femme, il peut abandonner. Mais Dieu, non. Une fois que nous sommes ses enfants, Dieu, il est toujours fidèle et il gardera. Voilà pourquoi, pour terminer, je peux vous dire, mon frère, ma sœur, quels sont tes projets ? Est-ce que tu as établi des projets sans les mettre auparavant entre les mains de Dieu ? Si tu as fait cela, sache que tes projets, ils ne vont pas se réaliser. Mais pour qu'un projet, il se réalise, il faut mettre d'abord le Seigneur. Et c'est lui qui va diriger notre vie. C'est lui qui va nous accorder les projets de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance qu'il a préparé pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Sommes-nous conscients qu'il ne désire que notre bonheur ? Le croyons-nous encore une fois ? En sommes-nous conscients ? Cela est valable pour le développement de notre Église. Savoir que Dieu, c'est la tête de l'Église. Dieu, c'est le chef de l'Église. C'est lui qui nous dirige. Et tout ce que nous devons faire, nous ne devons pas le faire pour les conseils ou pour qui que ce soit, mais nous devons le faire pour le Seigneur. Car c'est lui qui doit recevoir toute gloire, tout honneur. À lui sera gloire, de maintenant et à jamais. Amen. Amen.